Une semaine formidable avec Canal+. Toujours plus de sport, toujours plus d'action, toujours plus d'émotions avec les offres Canal+.
Bonsoir à tous, bienvenue dans une semaine formidable pour décrypter l'actualité sportive de la semaine. Pour m'accompagner ce soir, j'ai le plaisir de recevoir Bruno Salvé et Serge De Novac. Bonsoir messieurs.
Bonsoir.
Au sommaire de cette émission, du football avec un focus sur la 24e journée de Ligue 1 et sur la semaine de Ligue des Champions à venir, et du rugby avec la 18e journée de Top 14. Et nous commenterons ensuite les résultats sportifs de la semaine et nous terminerons comme d'habitude par les coups de cœur de nos invités. On va commencer par du football et avec vous Serge De Novac, c'était la 24e journée de Ligue 1. Pour vous, quel est le fait marquant de cette journée ?
Eh bien déjà, jouer à domicile n'est pas une assurance tout risque pour gagner un match puisqu'il y a 5 victoires à l'extérieur. Et puis alors le focus pour moi c'est le Havre qui a été faire un résultat pas facile à obtenir parce que quand on sait que quand même aller jouer dans le...
À Bollaert
c'est quand même difficile. Et ensuite je dois dire que si on regarde un peu le classement, Paris Saint-Germain nous a encore étonnés pour ceux qui seraient les plus sceptiques et qui attendent le match de Liverpool.
Alors le Havre donc est allé s'imposer 4-3 à Lens pour se ôter de cette dernière place qui était la leur et se retrouver aujourd'hui 16e, alors pas encore sauvé mais en tout cas au-dessus de la fameuse ligne de flottaison, en faisant basculer Saint-Etienne qui lui s'est incliné à domicile 3-1 contre Nice, justement dans ces deux dernières places, 17e pour les Stéphanois.
Alors, les Stéphanois, c'est plus qu'un souvenir, parce que quand on pense qu'ils nous ont fait vibrer, qu'ils nous ont fait lever, je veux dire qu'à l'heure actuelle, on a plutôt tendance à vouloir se coucher quand on les voit, parce que c'est pas terrible.
Et oui, et malheureusement, c'est une spirale très très négative, puisque 4 défaites sur les 5 derniers matchs, donc c'est vraiment la mauvaise période pour Saint-Etienne. Dans ce bas du tableau et à la dernière place, on a Montpellier qui s'est incliné 4-0 à la maison.
Le pauvre Loulou, il doit se retourner là-haut.
Dans sa tombe.
Ah ben oui, je crois que Montpellier, ça a été un club un petit peu qui a été porté par ce Loulou qui était...
Louis Nicolas pour les non-initiés.
Oui, excusez-moi.
Loulou pour les intimes.
Loulou pour les fans du football qui l'ont côtoyé un peu. Et je dois dire que c'était un phénomène déjà, lui tout seul.
Effectivement, on voit que depuis le décès de Louis Nicolas et la reprise du club par son fils Laurent, Montpellier a quand même beaucoup, beaucoup plus de mal et à attirer des joueurs et à conserver son statut au sein de l'élite.
Tout à fait.
Vous avez parlé du PSG, on va revenir sur le haut de tableau. Le PSG qui a facilement disposé de Lille 4-1, on s'attendait à un match plutôt serré, équilibré et certains espéraient que Lille allait donner du fil à retordre au PSG, ça n'a pas été le cas, 4-0 en 37 minutes.
Alors il y a des questions à se poser, soit Lille a fait l'impasse, soit notre Paris Saint-Germain a découpillé très haut et très fort. Alors ça, c'est un peu la répercussion à la veille un petit peu d'un match important en Coupe d'Europe. Hein. La vérité n'existe pas à ce niveau-là. Les entraîneurs essayent d'amener leurs joueurs en forme pour le jour J. Le jour J, c'est là. Hein. Quand on va voir l'affiche...
C'est cette semaine, effectivement. On en parlera un tout petit peu plus tard. Donc, semaine de Ligue des Champions.
Tout à fait, avec des matchs qui vont être intéressants. Et puis l'équivalent en Angleterre de ce que fait Paris, c'est Liverpool. Et puis après, la grosse Bertha derrière avec Dortmund, ça ne va pas être facile.
Bon, on en reparlera un tout petit peu après. On va continuer d'égrener les résultats de la Ligue 1.
Oui.
En ouverture de cette journée de championnat, Monaco s'était imposé aussi assez facilement contre Reims 3-0. Monaco qui reprend un petit peu du poil de la bête après un petit passage à vide.
Alors, Monaco, c'est un petit peu la douche écossaise. Ils ont des périodes d'euphorie et puis après des périodes de basse tension. Je crois que... C'est un petit peu difficile. C'est pas constant. C'est pas quelque chose sur lequel on pourrait parier à tous les matchs.
Il reste malgré tout quatrième, voilà, à trois points de Nice. Mais effectivement, ils étaient encore deuxième il y a trois ou quatre journées.
À Nice, c'est plus. Il y a Il y a un esprit, il y a quelque chose qui... Il n'y a pas de chloroforme à Nice, c'est plutôt tendance vitriol.
Mais il semblerait que Franck Hez réussisse à mettre en place ce qu'il a mis en place à Lens.
Exactement.
Il a mis un petit peu de temps en début de saison, hein. On s'était dit ça ne marche pas, ça ne prendra pas partout, mais finalement ça semble commencer à tourner correctement du côté de Nice.
Ce qui me fait mal un petit peu, c'est notre Antoine qui, avec Nantes, a beaucoup de mal à l'heure actuelle à sortir la tête de l'eau. Et il ne faudrait pas qu'il nous fasse encore trop de brasse coulée parce qu'il s'en est sorti une fois. Il n'est pas dit qu'il puisse faire encore un miracle.
Alors pour l'instant, Nantes est 14e en ayant perdu ce matin contre Marseille à Marseille 2-0. Oui. Après avoir résisté plus de 70 minutes, mais voilà, ils ont fini par céder. Donc 14e et surtout que j'ai envie de dire 5 points d'avance sur Saint-Étienne qui est le premier relégable aujourd'hui.
Tout à fait.
On a Toulouse qui continue à être un peu aussi sur courant alternatif avec du très bon et du très moins bon. Donc il s'est imposé à Angers 4-0.
Alors en même temps, Toulouse, dans le fief du rugby, le football là-bas c'est anecdotique, c'est la cour de récréation.
Alors on rappellera qu'ils ont battu Liverpool l'année dernière en Coupe d'Europe quand même.
Oui, oui. Mais il n'y a pas un public extraordinaire, ils n'ont pas cette faculté de pouvoir rivaliser avec...
Le Stade Toulousain.
Le Stade Toulousain qui est une sommité.
Une institution, absolument. Oui. Il nous reste deux matchs à voir pour cette journée de championnat. Auxerre qui s'est incliné à domicile contre Strasbourg 1-0.
Oui, et là, une petite pensée pour Giroud qui, naturellement, doit voir ses matchs un petit peu avec beaucoup de regrets parce qu'avant, ça n'existait pas, ça. Strasbourg qui vient de battre Auxerre à Auxerre, c'était... Il faut remonter à 14-18, non?
J'étais pas né.
Bon,
et le dernier match de cette 24e journée, Lyon. Qui s'est imposé difficilement face à Brest, mais qui s'est imposé quand même 2-1.
Oui, là c'était un petit peu le choc attendu avec Brest qui a fait un parcours assez extraordinaire en Coupe d'Europe et Lyon qui aspire naturellement à mieux. Et je dois dire que le nouvel entraîneur, par contre, m'inquiète un peu, mais en espérant qu'il retrouve un peu plus de calme et de sérénité.
Ah bah, je pense que la Ligue va l'inviter à se calmer, puisque pour ceux qui n'auraient pas suivi, Da Fonseca s'en est pris physiquement quasiment à l'arbitre, hein, en se plantant devant lui à 2 cm, voire moins. Donc je pense que, vu la sanction qu'a pris Pablo Longoria la semaine dernière, je pense que Da Fonseca va aussi prendre une bonne dizaine de matchs de suspension pour cet acte.
Eh bien, en bon argentin, il a dû penser qu'il était dans un tournoi de tauromachie, mais je crois que là, c'est pas le cas. Hein.
L'arbitre n'a pas bougé, en plus. Hein. L'arbitre a été oui. Très, très droit dans ses bottes. Voilà, je pense que l'image est assez impressionnante.
Oui.
Mais c'est dommage de voir ce type d'image à la télé.
C'est absolument, effectivement...
En tant qu'éducateur, Serge, quoi, et moi, ça m'a choqué. Quoi. Quand on voit que des jeunes qui regarde ce genre d'attitude, ce n'est pas aider à l'esprit sportif.
Ah bah c'est pour ça qu'on retrouve ce genre d'attitude sur les terrains, aussi le mercredi après-midi, malheureusement.
Absolument.
Serge De Novac, 33 buts en 9 rencontres.
Oui.
C'est quand même assez prolifique pour cette 24e journée.
Alors,
du coup, attaque prolifique ou défense en perdition?
Voilà, alors moi je penserais plutôt pour défense en perdition, parce que, ok... Alors, je n'ai pas un goût pessimiste, je suis un attaquant né, d'abord parce que je l'ai été à l'époque, et je dois dire que quand je vois le nombre de buts inscrits et les victoires à l'extérieur, je pense qu'au niveau défensif, ben, y a une carence à l'heure actuelle, parce que défendre sans faire de faute, c'est très bien joué, et à l'heure actuelle, on voit beaucoup de fautes. Beaucoup de buts arrivent d'ailleurs qui sont coup de pied arrêtés. Ce qui veut dire que, tactiquement, eh ben, il faudrait peut-être revoir un peu le positionnement du bloc.
Sur les phases arrêtées. Bon, on va passer à la Ligue des Champions. Donc, on l'a dit, ça sera les huitièmes de finale aller de cette Ligue des Champions. Mercredi matin, pour nous, il y aura Bruges-Aston Villa, Dortmund-Lille, le Real Madrid contre l'Atlético Madrid et le PSV Eindhoven contre Arsenal. Bien évidemment, on aura un œil particulier sur Dortmund-Lille. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Comment vous pourriez nous présenter ce match?
Écoutez, j'ai préparé ma boule de cristal et je mets un petit billet sur Lille.
Ok. avec match retour donc la semaine suivante, si je dis pas de bêtises, à Lille.
Exactement.
Et jeudi matin, donc là, les quatre huitièmes de finale suivants, avec le Feyenoord Rotterdam qui accueillera l'Inter Milan, dernier club italien en lice, le PSG qui recevra Liverpool, un duel allemand entre le Bayern de Munich et le Bayer Leverkusen, et Benfica qui recevra Barcelone. Des belles affiches malgré tout déjà pour ces huitièmes de finale.
De très belles affiches. J'ai un peu plus de difficultés pour Paris qui, je pense...
Votre boule de cristal ne vous a pas donné l'info ?
Non, c'est pas ça. C'est que faire le match aller à domicile est un handicap pour moi. Et le retour, naturellement, sera chaud. Et il faut tout simplement espérer qu'ils ne prennent pas au moins un but, c'est tout.
Alors, sachant que la règle du but à l'extérieur n'existe plus, donc non. Ça a moins de conséquences que ça n'en a eu par le passé. Mais effectivement, en prenant un but, il faudra aller marquer à Anfield.
Alors, parce que Liverpool fait le même spectacle à l'heure actuelle en Angleterre, ils ont également le même nombre de points d'avance, ils font cavalier seul et... Il y a longtemps qu'on n'avait plus vu ça dans le championnat anglais.
C'est vrai, ça faisait quelques années où ça se jouait à deux, voire à trois, parfois même à quatre. Donc là, effectivement, ils ont beaucoup d'avance et ils peuvent se permettre de lâcher quelques points en Première Ligue pour se concentrer sur un match de Coupe d'Europe, même si je ne suis pas certain que ce soit la philosophie d'Arne Slot, l'entraîneur de Liverpool.
Non, parce que la compétition existe même à l'entraînement, parce que jouer dans le 11 team, c'est prendre la place à l'entraînement, c'est pas ailleurs qu'on la prend. Hein. Donc s'ils baissent trop les bras, je pense qu'à un moment donné, ça se ressentira dans la sélection et dans la mise en place de l'équipe. Il y a des entraînements qui sont plus durs que des matchs.
C'est comme ça que ça devrait être tout le temps, non ?
Ça peut pas l'être, parce qu'à un moment donné, le corps humain... Ces sportifs dont on rigole parfois, il faut savoir qu'ils vont faire 60 matchs dans la saison, ce qui est excessif, et que pour beaucoup, à un moment donné, la machine cale. Pour moi, les sportifs de haut niveau, quelle que soit la discipline, ça ressemble à de la Formule 1.
Eh bien, on va voir si les Formule 1 sont bien réglées cette semaine, et pour le PSG, et pour Lille en Ligue des Champions. On va passer au rugby, Bruno Salvé, avec vous. C'était la 18e journée de Top 14. J'ai envie de vous poser la même question qu'à Serge De Novak sur le football. Qu'est-ce qu'on peut retenir de cette 18e journée de Top 14 ? Quel est le fait marquant pour vous ?
Le fait marquant, il y en a eu quelques-uns quand même. Il y a eu le Stade français qui sort enfin de la zone rouge, puisqu'elle était vraiment mal classée.
En s'imposant face à La Rochelle 22-17.
Oui, face à La Rochelle, mais bon, à la maison quand même. Et puis il y a Toulon qui voulait faire un coup à Lyon et qui finalement s'est incliné aussi sur le terrain de Lyon. Et ensuite, ce matin, il y avait un bon match de rugby entre l'Aviron Bayonnais et Clermont-Ferrand, donc avec une victoire de Bayonne qui reste invaincue sur son terrain depuis le début de la saison. Donc on arrive, donc comme vous le disiez, à la 18e journée de championnat. Il reste donc là, il y a un bloc de deux semaines où les joueurs sont au repos avec les deux derniers matchs du tournoi des destinations. Et ensuite, ce sera la grande ligne droite pour se qualifier.
Pour être dans les six premiers.
Dans les six premiers, ouais. Mais je pense qu'il y aura peut-être un petit rappel pour vos auditeurs de la qualification, comment ça se passe.
Allons-y.
Les deux premières équipes, donc, qui, à l'issue des 26 journées de la phase régulière, sont directement donc, qualifiées pour les demi-finales. Et ensuite, les clubs classés de 4 à 6 disputent des matchs de barrage dans l'ordre suivant. Le troisième affronte le sixième et le quatrième, le cinquième.
C'est l'équivalent des quarts de finale, même s'il n'y en a que deux.
Voilà. Et, et ça se joue sur les terrains des clubs classés troisième et quatrième. Voilà. Et donc, par contre, pour les clubs qui sont en bas de tableau, c'est le dernier est relégué en Pro D2. Et l'avant-dernier joue, donc parce que déjà en Pro D2, il va y avoir une finale entre le premier et le deuxième. Le premier de la Pro D2 donc, est sacré champion de France de Pro D2 et monte directement en Top 14, tandis que le deuxième affronte le 13e de Top 14 sur un match de barrage.
De barrage, voilà.
Donc en gros, voilà, donc là on est en train de... c'est un championnat qui est très serré. Parce que hormis Toulouse et Bordeaux-Bègles qui sont pratiquement déjà en demi-finale.
Ouais, voire Toulon.
Ben oui, Toulon, il va falloir voir les derniers matchs de Toulon, mais je pense que Bordeaux va pas lâcher le bout de gras. Le Stade Toulousain va récupérer tout ça dans ses internationaux, donc je pense qu'il n'y a pas de souci pour eux. Et Bordeaux aussi va récupérer quand même ses internationaux qui sont mis à disposition de l'équipe de France. Par contre, c'est où c'est intéressant, ça va être par rapport aux barragistes. Bayonne, avec cette victoire de ce matin, s'installe quand même à la quatrième place, suivi de Castres, de Lyon et ensuite de Clermont.
De Clermont, c'est ça.
Oui, de Clermont, voilà. Donc ça reste très 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 serré parce que il y a quelques 5 ou 6 points de différence entre toutes ces équipes et ça reste aussi très serré en bas de classement parce que Vannes est à 28, donc Vannes dernier donc, et qui est monté de Pro D2 cette année est à 28 points mais bon, Perpignan est à 30 points, le Racing à 31 et le Stade Français à 32.
C'est ça, il y a un tiers groupé de 4 clubs pour 2 places où il ne faut pas être quoi.
C'est ça et c'est vraiment étonnant de voir 2 grands clubs comme le Stade Français et le Racing 92 à ces places là mais on se rend compte que il suffit pas d'avoir de l'argent et d'avoir des vedettes sur le terrain, il faut que la mayonnaise prenne, il faut que le discours de l'entraîneur soit et le plan de jeu soit assimilé par les joueurs et donc là on voit ces grosses équipes, ces écuries qui d'habitude jouent la qualification pour les demi, ben là ils jouent leur survie sur ces 8 dernières journées.
Sur le Stade Français justement, Laurent Labitte a été limogé par le président du Stade Français. Est-ce que, alors j'ai envie de dire, c'est le deuxième coup de semonce depuis le début de la saison puisque lui c'est le manager général mais l'entraîneur avait déjà été licencié en début de saison. Pas de résultat particulier depuis ce limogeage. Est-ce que celui-là, ça peut être un déclic ? Est-ce que vous pensez que cette victoire face à La Rochelle, c'est une réponse un peu d'orgueil des joueurs ou...
Bah, ils jouent à la maison quand même.
Ça reste La Rochelle quand même, même si ça reste plus La Rochelle d'il y a quelques années.
Voilà, mais... La Rochelle est en grande difficulté aussi, malgré la qualité de son effectif. Et honnêtement, j'ai vu le match. Il y a un carton rouge sur Skelton qui est vraiment discutable. Parce qu'il vient déblayer sur un ruck et il prend un carton rouge sur une faute qui est jugée un déblayage du joueur au niveau de la tête. Et quand on regarde vraiment l'image au ralenti, bon, c'est un déblayage violent, mais qui nécessiterait peut-être pas un carton rouge. Mais c'est vrai que ces équipes-là, La Rochelle, on est double champion d'Europe il y a encore 2 ans, se retrouve là actuellement à la 9e place, donc même pas sûr de pouvoir accéder aux demi-finales. Et moi, je mettrais bien une petite pièce sur Vannes, j'aimerais bien que cette équipe puisse rester en top 14. Parce que ce genre d'équipe, ce sont des équipes qui, depuis le début de la saison, traditionnellement, quand on monte de Pro D2 en top 14, c'est sûr qu'on va se faire éjecter, en gros, qu'on va redescendre. Mais Vannes, ils ont la grinta, ils ont envie de rester. Et puis surtout, ils sont dans une position où, sur chaque match, ils jouent leur survie. Quoi. Donc, ce qui n'est peut-être pas le cas de ces équipes du Stade Français et du Racing, qui sont plutôt habitués à jouer les hauts de tableau. Et là,
pas habitués à se battre pour survivre.
Et voilà. Donc, ça risque vraiment de faire autant au niveau du haut de tableau pour la qualification, pour les barrages, que pour le bas de tableau, pour la relégation en Pro D2, ça nous annonce une fin de saison et une 8 dernières journées vraiment passionnantes au niveau de ce top 14.
Alors on va revenir sur les résultats de cette journée. Donc on a parlé du Stade Français contre La Rochelle 22-17, Lyon donc a battu Toulon 27-20,
une super première mi-temps de Lyon qui a complètement étouffé les Toulonnais. Et puis bon, les Toulonnais, quand ils ont commencé à revenir et à étouffer les Lyonnais, ça a été trop tard. Et d'ailleurs, on parlait de limogeage de l'entraîneur de Paris qui était Gézal.
Voilà, au début de la saison.
Voilà, lui a repris Lyon. Et depuis qu'il a repris Lyon, l'équipe de Lyon performe au top. Donc, comme quoi, c'est souvent l'entraîneur qui sert de
fusible.
Mais bon, c'est peut-être pas aussi que la faute de l'entraîneur.
C'est plus facile à limoger que 15 ou 20 joueurs.
Que 15 joueurs ou que 2-3 individus dans un groupe.
On a ensuite Montpellier qui s'est imposé face à Castres 21-17.
Difficilement, avec un retour de Castres aussi pareil en deuxième mi-temps qui a 2 essais partout. Et c'est vrai que les Montpellierains qui jouaient, d'ailleurs ne jouaient pas chez eux parce qu'ils avaient des problèmes de pelouse, jouaient à Béziers. Donc le match était décentralisé à Béziers, mais qui se sont sauvés aussi là qui termine à 4 points quoi, de Castres.
Les Castrés. Le Racing a pris l'eau chez lui contre Pau, 29-47.
Inimaginable. Comment peut-on en arriver là avec un effectif aussi riche que celui du Racing et la correction, parce que il y a vraiment une. En plus, Pau a vraiment produit un rugby de mouvement, notamment en deuxième mi-temps, et a vraiment pris le dessus sur cette équipe du Racing. Donc, c'était un match assez plaisant, hein, 4 essais partout. Le Racing a essayé de revenir en marquant 2 essais à la fin, mais bon, la messe était dite. Le Racing est vraiment. Va vraiment jouer sa survie en top 14 cette année.
Perpignan qui s'est incliné aussi à la maison contre l'UBB, 17-29.
Oui, l'UBB c'est l'équipe en forme aussi, hein, avec Yannick Bru qui fait de l'excellent travail au niveau de son équipe, avec un effectif assez riche, avec des joueurs de talentueux. Voilà, ce que je regretterais sur ce match, c'est la sortie sous les sifflets de Mathieu Jalibert, qui ne mérite pas, qui fait une très belle prestation en plus. Mais bon, on connaît les Catalans et le public perpignanais qui est un public chaud et qui a malheureusement sifflé la performance de Mathieu, qui d'ailleurs s'est blessé sur ce match-là et ne pourra pas répondre à la convocation de l'équipe de France pour la préparation du match contre l'Irlande.
Exactement. On a Bayonne qui s'est imposé face à Clermont.
Voilà, 18. À la maison, avec un essai litigieux aussi en fin de match pour les Bayonnais. Mais bon, une belle relance de 80 mètres et... L'arbitre n'a pas demandé la vidéo pour voir s'il y avait un en avant. Bon, tout le monde a vu l'en avant,
sauf l'arbitre.
Donc voilà, ça se termine bien pour les Bayonnais qui méritent quand même sur cette prestation. Et Clermont décevant parce que c'est la quatrième défaite sur ce bloc. La troisième défaite, ils avaient remporté un match aussi. Mais bon, ça devient compliqué pour les hommes de Christophe Furios.
Oui. Voilà, il y a un petit bloc, un petit ventre mou dans le classement là, entre le Lyon à 40 points, Clermont à 39, Montpellier, La Rochelle et Pau à 38, avant les quatre dernières places.
Ah oui, mais Clermont peut, parce qu'ils ont vraiment un jeu attrayant aussi. Hein, s'ils performent, ils peuvent être dans les barrages et se qualifier pour les demi. Hein.
Il reste quand même beaucoup de journées. Et donc le dernier match de cette 18e journée où Toulouse a étrié Vannes, 63-21.
Il fallait s'y attendre un petit peu, mais par contre, chapeau aux Vannetais quand même, qui ont réussi à marquer 3 essais, s'il vous plaît, Ernest Vallon sur le terrain du stade toulousain. 3 essais bien construits, voilà, c'est une équipe fière. Cette équipe bretonne, et moi, elle fait vraiment plaisir à voir. Et en plus, un Calédonien qu'on connaît bien, Tafili, qui joue pilier. Et donc, voilà, ça fait toujours plaisir de voir cette équipe bretonne même si là, c'était le grand stade toulousain, c'est difficile de rivaliser. Mais je pense qu'elle peut encore faire de belles choses avant la fin de cette saison.
Alors, c'était le grand stade toulousain, mais quasiment privé de tous ses internationaux. Il y en avait 2 ou 3 qui étaient là. Il y avait Roumat, il y avait Capuzzo, il y avait... Mathis Lebel, mais on va dire que voilà, tous les autres étaient à disposition de l'équipe de France ou au repos. Donc même avec une équipe B, jeter discrédit sur Vannes non plus, il y a quand même 9 essais.
Oui,
c'est cette équipe toulousaine, elle est quand même tellement largement
jouable. Clermont a joué le Stade toulousain la semaine dernière et avec le même effectif, ils en ont pris autant. Ils en ont pris 40. Donc c'est vrai que la formation toulousaine, elle est reconnue, mais là, c'est vrai que ils ont des joueurs talentueux et des jeunes joueurs talentueux. Donc la relève, elle est vraiment, le plan de succession au niveau du Stade toulousain est assuré avec des joueurs qui ont énormément de qualité et qui vraiment ont cette culture du rugby de mouvement qu'on aime voir et qui est très efficace.
Tous les postes sont quasiment doublés, voire triplés.
Oui, 50 joueurs. Il s'appuie, Hugo Mola s'appuie sur l'année dernière, je crois que c'était 55 joueurs. Là, depuis le début de la saison, il a fait tourner 50 joueurs quand même sur son effectif. Donc c'est bien, parce que c'est vrai que quand on voit l'effectif, on se dit ouais, mais il y a les joueurs sont barrés, parce que il y a le japonais Sato qui est à la mêlée, il y a Graou Kossi qui est en demi de mêlée, et il y a bien sûr Antoine Dupont, donc 3 demi de mêlée de très haut niveau. Mais bon, la rotation fait qu'avec les matchs, c'est ce que disait Serge tout à l'heure par rapport au football, quand on voit le nombre de matchs que ces joueurs cumulent sur une année, en comptant le championnat, la Coupe d'Europe, les matchs internationaux, le tournoi et ainsi de suite, c'est une accumulation de performances, et donc il faut aussi savoir gérer l'effectif et laisser les joueurs au repos. Donc c'est tout le rôle du manager et des entraîneurs de préserver aussi les joueurs. Ouais.
Si on refait un petit point donc sur le classement, Toulouse est en tête avec 65 points devant l'UBB à 60 points et Toulon à 57 points. Et puis donc en bas de tableau, on l'a dit, le Stade Français 11e avec 32 points, le Racing 12e avec 31 points, Perpignan 30 points et Vannes ferme la marche avec 28 points. La prochaine journée avec un Bordeaux-Bègles-Toulouse,
oui.
le 23 mars, donc dans 15 jours. Et puis bah, y a quelques matchs qui vont valoir cher. Le Stade Français va recevoir Bayonne. Clermont va recevoir le Racing 92 et Vannes va se déplacer à Lyon. Donc il va y avoir des belles affiches sur cette 19e journée de Top 14.
Ouais. Ça nous promet de belles joutes et puis surtout des matchs au couteau, surtout pour les équipes qui veulent se sauver et puis les équipes qui veulent grimper. Et puis bien sûr, comme vous l'avez dit en premier, le Bordeaux-Bègles,
l'affiche,
Stade Toulousain.
L'affiche, le premier contre le deuxième.
Ça va être l'affiche, voilà, avec je pense les internationaux seront de retour des deux côtés, donc ça nous promet un match... Un match avec beaucoup d'essais et beaucoup de mouvements.
Un match qu'on espère de haut niveau.
Ah ben, je pense que ce sera du haut niveau, oui. Avec, je mettrai une pièce sur le Stade Toulousain quand même, même s'il joue à Bordeaux.
Eh bien, on suivra ça avec intérêt d'ici une quinzaine de jours. Mais si on va passer aux brèves que vous pouvez commenter à souhait de cette semaine. On va commencer par ce qui s'est passé ce week-end et le premier Grand Prix moto de la saison en Thaïlande avec un Marc Marquez ultra dominateur. Qui s'est imposé donc devant son frère Alex et devant Pecco Bagnaia. Il avait déjà remporté la course sprint samedi, il avait signé la pole, c'est quasiment le week-end parfait pour Marc Marquez.
Bah, moi c'était mon coup de cœur aujourd'hui pour les frères Marquez, parce que ce soit sur les deux courses, les deux frangins sur le podium.
1 et 2 exactement.
1 et 2. Donc quoi de mieux pour commencer une saison et quelle fierté pour les parents de voir leurs deux bambins, quoi, deux grands enfants maintenant sur un podium. Je pense que c'est une superbe performance, même s'ils ne sont pas dans la même écurie, ils n'ont pas de...
C'est ça, il y en a un qui est chez Ducati officiel,
voilà.
L'autre sur une Ducati dont j'ai oublié le nom de l'écurie.
Ouais.
Et donc on a nos Français Zarco qui finit 7e, Quartararo 15e, Serge.
Je veux dire qu'à ce niveau-là, ce sont des artistes, hein, parce que moi qui ai été un petit peu biker, mais de salon, quand on pense à ces artistes-là, c'est extraordinaire. Les courbes, comment ils les prennent, c'est...
Ouais, c'est vraiment des virtuoses. Quand on voit dans les virages, les pneus sont à la limite de l'adhérence. Ce sont vraiment des qualités exceptionnelles de réflexe et de...
Funambule.
Oui, voilà, c'est ça.
Le petit regret de ce début de saison, c'est l'absence du champion du monde, Rory Martin, qui est blessé, qui donc ne peut pas piloter pour l'instant et qu'on espère revenir rapidement pour se mêler à la lutte et avec Bagnaia et avec les frères Marquez.
Complètement, oui.
Parce que je pense que la saison peut être extrêmement animée au niveau de la MotoGP.
Tout à fait.
D'autant plus que j'avais eu l'interview de Zarco, c'est que les conditions météo en Thaïlande étaient terribles. Les joueurs souffraient d'une chaleur pas possible. Donc ça a été vraiment des conditions très, très, très difficiles pour les pilotes ce week-end.
C'est ça. On a vu que Marc Marquez avait à un moment rétrogradé pour laisser passer son petit frère, justement, pour un problème de pneumatique, de pression sur son pneu, et que l'échappement de la moto qui était devant lui, donc de son frère, lui permettait de redonner de la pression à son pneu. Et puis à deux tours de la fin, il a décidé d'accélérer et il lui a repris 2 secondes en 2 tours. Donc il était quand même très, très largement au-dessus sur ce week-end. On va passer au tennis, messieurs, avec l'ATP 500 de Dubaï où Stefanos Tsitsipas s'est imposé pour la première fois sur un ATP 500 en 12 finales. Il avait échoué 11 fois. La 12e aura été la bonne. Il a battu le Canadien Ogier Aliassime 6-3, 6-3. Il a fait quasiment la semaine parfaite. Tsitsipas, ça faisait longtemps que ça ne lui était pas arrivé. Il était assez inconstant, voire décevant ces derniers mois. Et là, il a l'air de revenir en forme avant les deux Masters 1000 américains. Un petit commentaire là-dessus, messieurs ?
Il a été pugnace parce qu'il a échoué donc 11 fois avant d'arriver au Graal. Je dois dire que c'est la qualité d'un champion, hein, de ne jamais baisser les bras et de toujours y croire.
L'abnégation.
L'abnégation, et puis c'est un joueur... moi, j'aime bien son style de jeu. C'est un joueur offensif, c'est bien pour lui, ça va lui donner de la confiance, comme vous le disiez, puis en espérant qu'il puisse. Parce qu'il est plus tout jeune maintenant. Non, parce que
il n'est pas si vieux.
Ils arrivent tellement jeunes dans le circuit maintenant.
C'est ça, il n'est pas si vieux, il doit avoir 28 à peu près, 28 ou 29 ans.
Il a encore la marge.
Ouais. Et à Acapulco, donc sur l'autre ATP 500 de cette semaine, c'est le jeune Tchèque Tomáš Marák, la révélation un peu de 2024, qui s'est imposé sur l'expérimenté Davidovich Fokina, 7-6-6-2. Grosse performance aussi, parce qu'on sent que Marák va être un client sur terre battue là, une fois qu'on aura passé les deux Masters 1000 américains.
Oui.
Et puis avec Roland Garros qui approche à grands pas, donc ça risque...
Avec tous les tournois de préparation, Madrid, Rome, Monte Carlo, les trois Masters 1000, oui, je pense qu'il va y avoir...
Ça promet.
Il va y avoir des grosses batailles, effectivement.
Oui, parce que d'abord les ténors commencent un petit peu à arrêter les uns après les autres.
Oui.
Donc place
aux jeunes.
Aux jeunes, et ça va... Il va y avoir du spectacle.
Sinner ne sera pas là, donc ça laisse aussi un peu la porte ouverte. On a tendance à croire que ça laisse la porte ouverte à Alcaraz, mais...
Sinner ne sera pas là à Roland-Garros ?
Sinner sera là à Roland-Garros, oui. Mais il ne sera pas là sur les tournois de prépa juste avant, puisqu'il est toujours suspendu.
Oui.
Donc il va y avoir probablement des joueurs qui vont se révéler sur ces trois Masters 1000 de terre battue.
Très bien.
On va changer complètement d'univers et se hisser à 6,27 m de haut.
Ah, trois étages.
voilà, trois étages, vous avez raison Serge. Mondo Duplantis a encore, j'ai envie de dire, battu le record du monde du saut à la perche en salle, en franchissant 6,27 m. Alors pour rappel, il avait franchi 6,25 au JO à Paris en plein air, donc il a presque ramené le record en plein air au record de la salle, ce qui est quand même très très fort. Il est lui aussi sur une autre planète.
C'est impressionnant parce que 6 mètres, on 27. Peut les sauter quand on saute dans l'eau, mais quand il faut passer au-dessus de la barre là-haut, quand on la regarde, c'est impressionnant. Et je dois dire, alors le matériel a drôlement évolué aussi parce que les perches maintenant réagissent bien au.
Extrêmement
à la bascule,
rigide, effectivement.
Mais il faut arriver là-haut. Hein.
Il me fait penser un peu à l'époque à Boubka qui. Qui à chaque fois qu'il allait dans un meeting, c'était pour le gain d'argent à l'époque.
Bien sûr, ça n'a pas changé.
Ça n'a pas changé, d'accord. Voilà, donc Boubka, il venait, il disait, voilà, moi, je vous bats le record du monde, mais vous mettez tant sur la table. C'est il venait, hop, il battait le record du monde, et puis...
Centimètre par centimètre.
15 jours après, voilà, ben, il rajoutait un centimètre, il allait sur un autre meeting et tout. Donc c'est vrai que c'est spectaculaire, mais jusqu'où va-t-il aller, quoi ? Alors là, 6,27 m, on se dit, bon, allez, 6,30 m, ça va le faire d'ici quelques temps, quoi.
Ah oui, je pense même qu'il doit aller franchir à l'entraînement, à mon avis, ouais. Même déjà. Donc effectivement, on sent que Mondo Duplantis est un peu tout seul sur l'univers de la perche. On signalera que sur cette épreuve, Renaud Lavillenie, 38 ans, a battu le record du monde des plus de 35 ans, puisqu'il concourt encore avec 5,91 m.
C'est énorme.
Donc voilà, c'est quand même une perf qui mérite d'être notée, parce que ça veut dire qu'il est au-dessus de tous les perchistes français
actuels.
Voilà, dans la catégorie senior, donc chapeau bas quand même.
Ouais, la longévité de ce sportif, c'est étonnant. Et c'est vrai que c'était un
résilience aussi.
La résilience, oui, par rapport aux blessures. Et puis il n'a pas un gabarit exceptionnel, quoi. Lavillenie par rapport à
Duplantis, oui.
Qui est grand et qui est très athlétique. Mais c'est vrai que lui, il a la technique, il a la vitesse sans doute. Et puis
la niaque,
absolument.
C'est ça. La soif de revanche pour après plein de blessures revenir au plus haut niveau et pourquoi pas être au championnat d'Europe et au championnat du monde indoor qui sont courant mars là, début mars pour les championnats d'Europe et fin mars pour les championnats du monde. Mais si on a fait le tour de l'actualité sportive de cette semaine, il nous reste un petit peu de temps. Je vais vous demander vos coups de cœur. Vous avez même droit d'en avoir un deuxième, donc de revenir sur les frères Marquez pour une salve si vous le souhaitez.
Oui, bah les frères. Moi, j'ai trouvé ça vraiment exceptionnel, quoi, de voir les deux frangins sur le podium. C'était pour la course sprint le vendredi, je crois, ou le samedi, et puis le dimanche.
C'est ça, sur la course sprint de samedi.
Voilà, et puis le lendemain, voilà, même classement, la même joie de pouvoir partager ça entre frères dans une fratrie. Je trouve que c'est vraiment un bon moment, quoi. Ce sont des choses qui sont exceptionnelles. On a connu hein, des sportifs. Qui étaient frères, notamment au niveau du rugby, mais eux, c'est voilà, donc c'est vraiment une belle image de la famille.
Un deuxième coup de cœur.
Je vais laisser Serge annoncer le sien.
Alors moi, le mien, il était au perché, hein. Il était à 6,27.
Voilà, c'est ça.
Et puis, je vais avoir un coup de cœur, mais par rapport à l'anniversaire d'ARB, parce que c'est une station qui nous fait vivre le sport au quotidien, d'une manière hebdomadaire. Et je veux dire que c'est une qualité rare de pouvoir écouter à chaque fois notre commentateur préféré, Olivier.
Bon, je ne sais pas si je suis encore là pour les 40 ans qui arrivent, mais en tout cas, j'espère que l'émission, elle, sera encore là pour les 40 prochaines années. Bruno, un deuxième coup de cœur ?
Moi, supporter de l'OM, donc je suis content que l'OM, même si j'ai beaucoup de respect pour Antoine, et c'est vraiment une très belle personne, mais bon, l'OM a gagné 2-0, donc je suis content.
Et s'accroche à sa deuxième place.
S'accroche à sa deuxième place, et puis un petit clin d'œil à mon ami Pierre Forest, qui est aussi un supporter inconditionnel de l'OM.
Eh bien, moi, je vais être un fervent supporter du PSG, parce que je veux dire que c'est l'année ou jamais.
Eh oui.
Ils sont dans de bonnes dispositions. On les attend depuis quelques années, parce que cette finale, on veut la voir. Et je pense que...
On l'a eu, mais dans une année où...
Pas fast. Voilà. Et là, la sauce a l'air de bien de prendre d'une manière extraordinaire. Et puis... L'entraîneur actuel renouvelé en plus, donc il est serein et droit dans ses bottes. Il va nous faire une surprise de taille, je crois.
Bon, on espère pour le football français. Ouais.
Pour ceux qui n'étaient pas encore nés en 96 et 97, le PSG avait battu Liverpool 3-0 au Parc des Princes et n'avait perdu que 2-0 à Anfield. Et s'était donc qualifié pour sa deuxième finale de Coupe d'Europe des vainqueurs de Coupe à l'époque consécutive, malheureusement perdue contre le Barça d'un certain Ronaldo à l'époque.
Quand on pense au PSG, on pense notamment à Casque d'Or. Hein. Oui. Antoine, qui avait été mettre un but contre le Real au Parc, magnifique, j'y étais.
C'est ça, c'était la fin, la période Deniso.
Exactement.
Bon, et bien sur ces considérations un peu anciennes, messieurs, on va se quitter. Je vous souhaite à tous une bonne semaine, un bon anniversaire à l'ensemble des gens qui travaillent à la station, et on se retrouve la semaine prochaine pour une semaine formidable.
Pour vivre le meilleur du sport, les plus grands matchs, les exclusivités, c'est seulement avec les offres Canal+. Canal+, le partenaire d'une semaine formidable sur Radio Rythme Bleu.